Tout de suite, le journal présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et bien entendu, l'essentiel de notre édition sera consacré au décès la nuit dernière de l'ancien chef de l'État Valéry Giscard d'Estaing. Nous serons tout d'abord à Chamalières, l'histoire personnelle de VGE est bien entendu intimement liée à cette commune. Nous reviendrons sur le bilan de sa politique, ses très nombreuses réformes sociétales, mais aussi son style résolument novateur, sans oublier les événements qui auront marqué la deuxième moitié de son septennat, de la crise économique et sociale jusqu'aux affaires. Invité de la rédaction, Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Sciences Po et ancien directeur du CEVIPOF. Dans le reste de l'actualité, nous détaillerons tout d'abord une proposition de loi examinée depuis hier à l'Assemblée pour faciliter et sécuriser l'adoption. Et puis nous nous rendrons à Hong Kong où décidément les poursuites se multiplient contre les dissidents et détracteurs de Pékin. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Et nous poursuivrons, comme évoqué, le portrait de ce président à travers sa modernité avec nos invités, l'historien Jean-François Cirinelli, l'académicien Marc Lambron et le romancier Éric Reynard seront avec nous à partir de 12h55 pour évoquer la figure moderne de Valéry Giscard d'Estaing.
Son statut d'immortel ne l'aura donc pas empêché de voir les lourdes portes de l'institution de France où siège l'Académie française s'ouvrir la nuit dernière pour le conduire vers l'ultime sortie et sans la moindre mise en scène. Atteint du Covid-19, Valéry Giscard d'Estaing s'en est allé à l'âge de 94 ans. Un au revoir solennel toutefois au regard des très nombreuses réactions politiques. Dès cette nuit, son lointain successeur Emmanuel Macron a rendu hommage à la mémoire d'un chef d'État dont le septennat transforma la France. De son côté, le Premier ministre Jean Castex a lui salué ce matin un homme de progrès et de liberté. Pour des générations entières, il a fait souffler un grand vent de modernité sur la société française, a réagi pour sa part François Bayrou qui non seulement fit avec lui ses premiers pas en politique mais fut également son successeur à la tête du parti UDF. Pur produit de l'élite française, Valéry Giscard d'Estaing s'était imposé dans le paysage politique dès les débuts de la Ve République en occupant différents postes ministériels avant de parvenir à conquérir l'Élysée, c'était en 1974. Et c'est d'ailleurs depuis le balcon de l'hôtel de ville de Chamalières, petite ville du Puy-de-Dôme où il aura été maire cette année durant, qu'il avait déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Chamalières, où vous vous trouvez, Christophe Vincent, bonjour.
Bonjour Thomas.
Évidemment, l'histoire personnelle de VGE est intimement liée à cette commune. Il tenait beaucoup à son ancrage auvergnat et vous avez rencontré ce matin, Christophe, plusieurs de ses habitants en deuil.
Oui, à 100 mètres de la mairie où va s'improviser dans un quart d'heure une cérémonie en présence du secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoine, le marché qui remballe ses étals. Les clients plutôt âgés achètent leur jambon ou leur part de Saint-Nectaire et ils ont presque tous un souvenir ému de Giscard l'Auvergnat.
Beaucoup d'émotions. Valéry Giscard d'Estaing, bon, c'était quand même l'image en Auvergne. Je l'ai croisé dans la rue, à faire les vitrines, au même titre que moi d'ailleurs, tout seul. Pour moi, c'était avant tout un être humain.
Je l'ai vu quelques fois, moi, ici. C'est un type sympathique.
Un peu ému parce que c'était quand même ma jeunesse, etc., etc. C'est des souvenirs. C'est comme ça. Il avait 94 ans, c'était son heure.
Les quatre autoroutes, Vulcania, le Zénith, les Auvergnats citent volontiers ses réalisations, quitte à oublier le désamour. Giscard battu à la région après 18 ans de présidence et battu à la mairie de Clermont-Ferrand.
On avait beaucoup d'affection pour lui à Chamalières. À Chamalières, il était détendu. Il avait dit une fois qu'il s'était amusé davantage en une soirée à Chamalières qu'à l'Élysée pendant 7 ans.
Ça s'est pas très bien fini quand même avec l'Auvergne, comme s'il se sentait un peu rejeté. Vous l'avez ressenti,
oui,
ça?
Oui, on n'a pas voté pour lui. On l'a pas élu. Il aurait été un grand maire à Clermont-Ferrand. Et on lui a dit non, il est parti.
Un divorce consommé il y a quelques années quand VGE a vendu son château familial à Chanonat pour acheter celui d'Estaing dans l'Aveyron. J'y ai trouvé des gens souriants, disait-il. À Clermont, on ne sourit pas.
Merci Christophe Vincent, en direct de Chamalières. Alors, caricaturé durant des décennies pour son élocution propre à la bonne société et souvent interprété comme de l'arrogance, Valéry Giscard d'Estaing, figure de proue du centre droit, n'en aura pas moins distillé un style résolument moderne, incarné tout d'abord par sa jeunesse, mais aussi un agenda réformateur comme rarement la Ve République en aura connu. Celui qui prenait une société libérale avancée aura permis successivement l'abaissement à 18 ans de l'âge de la majorité, la légalisation de l'avortement, le libre accès à la contraception et son remboursement par la sécurité sociale, et l'on pourrait encore citer la reconnaissance du divorce par consentement mutuel, une loi d'orientation en faveur des handicapés ou bien l'extension de la saisine du Conseil constitutionnel qui allait ainsi renforcer les droits de l'opposition. Et pour évoquer notamment le bilan, donc giscardien, invité de la rédaction aujourd'hui, Pascal Perrino, politologue, professeur des universités à Sciences Po et ancien directeur du CEVIPOF. Bonjour monsieur.
Bonjour.
VGE avait déclaré « La postérité ne retiendra rien de moi, nos sociétés sont sans mémoire, mais je l'accepte sans difficulté ». Et pourtant, force est de constater que son legs est assez impressionnant. Je le disais, peu de présidents peuvent se vanter d'avoir autant réformé au début de leur mandat que Valéry Giscard d'Estaing. Diriez-vous que c'était un visionnaire ?
Écoutez, sur certains thèmes, il a été visionnaire. Je pense en particulier sur la question européenne. C'était un Européen de toujours, qui disait déjà très jeune, lorsqu'il commence sa carrière ministérielle, il a 33 ans, qu'il croyait dans les États-Unis d'Europe, que pour lui l'Europe était une affaire existentielle et que le destin de l'Europe devait être de devenir une puissance politique. Et il a, tout au long de sa très longue carrière politique, accompagné cette vision européenne, même si à la fin des fins, en 2005, c'est le peuple français qui refusera le passage à une Europe puissance politique au travers du refus du traité constitutionnel européen.
J'évoquais tout à l'heure un certain nombre de réformes sociétales, cette fois-ci donc apportées au crédit de VGE. Des réformes qui apparaissent parfois d'autant plus audacieuses qu'elles heurtaient les convictions d'une bonne partie à l'époque de l'électorat de droite.
Ah, tout à fait. Il a pris à rebrousse-poil une partie de son électorat. D'ailleurs, certains diront, eh bien, les électeurs qui lui ont manqué en 1980, ce sont ces électeurs d'une droite ultra-conservatrice qui avaient refusé de voter Giscard en 80 alors qu'ils avaient pu voter Giscard en 1974. Mais Valéry Giscard d'Estaing était certainement, au sein des leaders de la droite française à l'époque, l'homme qui avait pris au sérieux le choc de mai 68. Pour lui, mai 68 était un ébranlement majeur de la société française et il y percevait la demande très très forte d'un changement du système et en particulier du système politique par rapport aux changements sociaux et culturels qui étaient manifestes en mai 1968. Et toutes les réformes que vous avez rappelées, qui sont des réformes de société majeures sur lesquelles personne n'est revenu, attestent tout à fait du fait que c'était le choix de Giscard. Même la réforme sur l'interruption volontaire de grossesse, qui a été portée certes par Simone Veil, c'était un choix de Valéry Giscard d'Estaing qui considérait qu'une politique moderne, c'était une politique qui s'adaptait au changement social et au changement culturel.
Merci Pascal Perrino, vous restez évidemment avec nous. Alors, l'un des plus grands échecs de Valéry Giscard d'Estaing aura été d'avoir échoué à se faire réélire président en 1981. Je n'avais jamais imaginé la défaite, concédera-t-il d'ailleurs quelques années plus tard. Et puis surtout, Stéphane Robert, ses tentatives par la suite de gravir les échelons du pouvoir auront été vaines, puisque jamais plus il ne parviendra véritablement à s'imposer.
Giscard a vécu la défaite du 10 mai 1981 avec une grande stupéfaction. Il ne s'attendait pas du tout à être battu par Mitterrand. Jusqu'au soir, 20h, on était confiant, avouait quelques années plus tard Jean-Pierre Raffarin. Et même après, une fois le résultat connu, on en doutait encore. Et donc cette défaite, Valéry Giscard d'Estaing ne l'a jamais vraiment acceptée. C'est la raison pour laquelle, à l'image de Raymond Poincaré, l'un de ses modèles, il décide de repartir de tout en bas de l'échelle. Dès l'année suivante, en 1982, il est élu conseiller général du Puy-de-Dôme dans le canton de Chamalières. Quelques mois plus tard, il participe à la grande émission politique télévisée de l'époque, L'Heure de Vérité. Il se fait également élire député en 1984 à l'occasion d'une législative partielle, toujours dans le Puy-de-Dôme. Et jusqu'aux législatives de 1986, il fait figure, avec Raymond Barre et Jacques Chirac, de principal dirigeant de l'opposition. Après quoi, ça se gâte puisque François Mitterrand, en nommant Chirac à Matignon, choisit et adoube en quelque sorte celui qui sera son principal opposant. Giscard a pourtant tout fait pour tenter de retrouver un rôle de premier plan. Il a souhaité devenir président de l'Assemblée nationale, mais c'est finalement son rival de 1974, Jacques Chaban-Delmas, qui prend sa revanche en lui chipant la place. Il nourrit un temps l'espoir de se présenter à la présidentielle de 88, mais finalement, il renonce, cédant la place à Raymond Barre. Au lendemain des législatives de 1988, il prend la tête de l'UDF, parti qu'il a fondé 10 ans plus tôt. Il remporte les élections européennes de 1989, ce qui fait de lui un potentiel candidat pour la présidentielle de 1995. Mais là encore, à l'approche du scrutin, découragé par de mauvais sondages, il renonce. Il n'aura donc jamais réussi à remonter sur le ring pour prendre sa revanche et effacer la défaite de 1981 qu'il a toujours considérée comme une injustice. Par la suite, c'est au niveau européen que va se poursuivre son engagement, avec notamment la rédaction du traité constitutionnel européen au début des années 2000.
Pascal Perrineau, je reviens vers vous. Il y avait chez Valéry Giscard d'Estaing une forme de hantise, de l'oubli, et peut-être même davantage encore la peur d'être incompris. Diriez-vous qu'il était soucieux de sa place dans l'histoire ?
Oui, il était très soucieux de sa place, d'abord parce qu'il avait, à juste titre, c'était une intelligence extrêmement pointue, mais il avait une très haute idée de lui-même. C'est d'ailleurs ce qui exaspérait Jacques Chirac, qui considérait que l'intelligence de Valéry Giscard d'Estaing était un peu condescendante à son goût. Mais on l'a vu particulièrement vers les dernières années de son septennat, qui va durer de 1974 à 1981, il y a eu presque une volonté, parfois maladroite d'ailleurs, de laisser son empreinte dans l'histoire, d'être un président d'ailleurs essentiellement préoccupé à la fin de son septennat par la politique étrangère et de compter parmi les grands, alors qu'il avait lui-même intégrer la notion que la France n'était plus une grande puissance, mais était une puissance moyenne. C'est lui le premier qui utilisera ce vocable de puissance moyenne, mais il cherchera, oui, à développer une politique de la grandeur. Ce sont des interventions en Afrique, et c'est lui-même qui, à la fin de son septennat, apparaît peu à peu comme, je crois que c'était la couverture du Nouvel Observateur à la fin de l'année 80, l'homme qui voulait être roi et qui aurait voulu laisser une image surplombante de grand monarque républicain.
Alors nous avons évoqué la volonté de Valéry Giscard d'Estaing de moderniser la société, sans doute pourrions-nous en dire tout autant s'agissant de cette fonction présidentielle. Et finalement, ce sont pour l'essentiel des difficultés économiques qui provoqueront sa chute, au premier rang desquelles Anne-Laure Jumet, deux chocs pétroliers qui viendront marquer d'une pierre noire son septennat.
Valéry Giscard d'Estaing arrive à l'Élysée, il essuie les conséquences du premier choc pétrolier. La France sort de la période des 30 glorieuses, 400 000 chômeurs au début de son mandat, 4 fois plus à la fin de son septennat. Entre-temps, il y a eu le deuxième choc pétrolier. Giscard n'aura pas réussi à freiner l'envolée du nombre de demandeurs d'emploi, malgré la promesse faite à la télévision le 26 novembre 1974. « Le gouvernement fera tout pour vous protéger du chômage », assurait-il. En avril 1977, un pacte national pour l'emploi des jeunes est annoncé par son premier ministre Raymond Barre. C'était le premier du genre, avec à la clé des exonérations de charges sociales pour les entreprises, mais ça n'a pas suffi. Giscard n'aura pas non plus réussi à juguler l'inflation liée à la flambée du pétrole. Expert des finances publiques, il n'avait en revanche pas la fibre entrepreneuriale et ses relations avec le patronat étaient notoirement mauvaises, explique son biographe Éric Roussel. Sur le plan social, on notera qu'il a généralisé l'assurance vieillesse obligatoire et rendu universelle la branche familiale du régime général de la sécurité sociale. Sous sa présidence a aussi été votée la première loi du genre pour l'intégration des personnes handicapées. Enfin, sur le plan européen, il donne un coup d'accélérateur à l'union monétaire avec le système monétaire européen lancé en 1979 aux côtés du chancelier allemand Helmut Schmidt, prémisse de l'instauration de la monnaie unique européenne.
Alors en réalité, outre la crise économique, sociale née des chocs pétroliers, d'autres événements vont venir empoisonner un peu plus encore le mandat de Valéry Giscard d'Estaing. On se souvient notamment de l'affaire des diamants de Bokassa, affaire qui entachera durablement son image et donnera du souffle à ses contempteurs. On pourrait également citer les interventions de la France au Zaïre. L'occasion aussi de rappeler, Olivier Poujade, que si l'Afrique provoquera pour partie son échec de 1981, VGE avait pour autant une vraie passion pour le continent noir.
Ce lien avec un continent qu'il décrit lui-même dans une autobiographie comme un rêve insistant de jeunesse, ce lien trop intime avec l'Afrique a sans doute coûté à Valéry Giscard d'Estaing sa réélection en 1981. Tout cela pour une poignée de diamants, ceux reçus en 1973 des mains de Jean Bedel Bokassa. Un scandale sur lequel VGE communiquera mal et trop tardivement.
Je vous cache pas que c'est désobligeant pour moi de répondre à des questions de cette nature, mais je peux vous dire que déjà au cours des dernières années, de nombreux cadeaux ont été envoyés à des œuvres de bienfaisance. Et enfin, à la question que m'avez posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu comme ministre des Finances, j'oppose un démenti catégorique. Et j'ajoute méprisant.
Avant d'entamer son mandat présidentiel, Valéry Giscard d'Estaing nourrit pourtant l'ambition de donner une nouvelle impulsion aux relations franco-africaines. À son arrivée, il démantèle le tout-puissant secrétariat aux affaires africaines de Jacques Foccart. Mais l'affaire des diamants, du fantasque et sanguinaire Jean Bedel Bokassa, révélera les méthodes peu scrupuleuses de la France en Afrique. Après avoir été renversé par l'opération Barracuda, l'empereur centrafricain livrera tous ses secrets depuis Abidjan, où il est assigné à résidence.
Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. On exploite mon pays et on l'interdit de revendiquer ses droits.
Le rêve africain de Valéry Giscard d'Estaing vire au cauchemar. Entre 1977 et 1981, la France ne mènera pas moins de 6 opérations militaires au Zaïre, au Tchad, en Mauritanie et en Centrafrique. La manipulation fait place à la manière forte et les leaders africains évoquent pour la première fois l'ingérence française sur leur territoire.
Alors cette passion de Valéry Giscard d'Estaing pour l'Afrique nous rappelle qu'un autre ex-président vouait lui aussi, et comme aux autres civilisations non occidentales d'ailleurs, un véritable culte, c'est évidemment Jacques Chirac. Pascal Perrineau, on le sait, tout au long de leur carrière politique respective, et même au-delà, les deux hommes se sont livrés une bataille sans merci. Pour quelle raison ?
Alors c'est une bataille féroce à la fois pour des raisons presque idéologiques et pour des raisons personnelles. Les raisons idéologiques, c'est que on le sait, la droite française a toujours été traversée de courants pluriels et qu'entre le style bonapartiste, l'héritage bonapartiste de Jacques Chirac et la droite de tradition orléaniste de Valéry Giscard d'Estaing, il y avait beaucoup de différences. Ce sont deux tempéraments de droite extrêmement différentes. Et puis d'autre part, il y a eu l'accumulation de querelles entre les hommes, et ça a commencé très tôt, dès les années 60, lorsque Jacques Chirac est secrétaire d'État au budget sous l'autorité de Valéry Giscard d'Estaing. Les relations des deux hommes, ça se passe mal. Et le ministre de l'économie qui est Giscard fait sentir toute sa supériorité à Jacques Chirac, qui le vit très mal. Et puis ensuite, bien sûr, les années 70 sont décisives, puisque hors 1976 que Jacques Chirac fait l'affront au président Giscard de démissionner et de démissionner de manière tonitruante du poste de Premier ministre qu'on lui avait confié en 1974. Et à partir de ce moment-là, ça sera, le conflit est irrémédiable. Il y aura la création du RPR et la course poursuite vis-à-vis de l'UDF. Il y aura le conflit de Paris où bien sûr Jacques Chirac bat le candidat giscardien Michel Dornano, qui était un proche de Giscard, et le conflit de 1980 où au fond Valéry Giscard d'Estaing considère que le responsable de la défaite de 1981 c'est Jacques Chirac, qui n'a pas véritablement joué le jeu et qui même en sous-main a favorisé au second tour un vote en faveur de François Mitterrand.
Alors justement, on sait que Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand entretiendront une correspondance nourrie. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, il y avait certainement deux hommes qui estimaient qu'ils étaient d'une nature supérieure à, en particulier, Jacques Chirac, qui était considéré comme un bretteur, un dirigeant de parti, mais qui ne pouvait pas prétendre aux plus hautes destinées. Et donc, entre Giscard, l'intelligence giscardienne et l'intelligence qu'on a souvent présentée comme étant un peu maquillée, machiavélique de François Mitterrand, il y avait certainement des résonances. Et puis il y avait certainement une culture européenne que les deux hommes, en dépit de leurs oppositions, partageaient. François Mitterrand, comme Valéry Giscard d'Estaing, étaient de grands Européens, ce que n'était pas, par exemple, Jacques Chirac.
Merci Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Sciences Po et ancien directeur du CEVIPOF, d'avoir répondu à notre invitation. Dans le reste de l'actualité, à présent, une proposition de loi pour faciliter et sécuriser l'adoption est examinée depuis hier après-midi à l'Assemblée nationale. Le texte présenté par La République En Marche, ERIS, La Droite et certaines associations. Parmi ces mesures phares, Diane Berger, on trouve notamment l'ouverture du droit des parents à l'adoption aux couples non mariés.
Après tout, 6 enfants sur 10 naissent hors mariage aujourd'hui. Les mariages, eux, ne sont plus forcément signe de stabilité. Alors pourquoi pas ouvrir le droit à l'adoption aux couples qui vivent ensemble en PACS ou en concubinage ? C'est le sens du projet de loi défendu par la députée de l'Isère, Monique Limon.
Aujourd'hui, on a effectivement différentes façons de faire famille et il est bien normal qu'on s'approprie ces façons de faire famille. On pense qu'une démarche de vie en couple et du coup, au travers de cette démarche de vivre en couple, une démarche pour adopter, c'est très favorable de pouvoir faire en sorte que ces couples-là puissent faire cette démarche à deux.
Son texte s'accompagne aussi de mesures pour favoriser l'adoption d'enfants délaissés et lutter contre les discriminations envers les familles homoparentales, un geste qui rassure les associations LGBT, mais d'autres collectifs sont plus inquiets. Anne Royal est la présidente de la Fédération Enfance et Famille d'Adoption.
Tout le débat va être occulté par l'article 2 sur l'ouverture de l'adoption aux personnes non mariées, alors qu'il y a beaucoup d'autres points dans cette proposition de loi qui mériteraient de s'y pencher davantage.
Sa fédération s'inquiète notamment de l'extension possible des recours contre les décisions du Conseil de famille des pupilles de l'État, l'instance qui se prononce sur les projets d'adoption, ce qui pourrait causer, selon elle, des procédures judiciaires longues et difficiles à vivre pour l'enfant.
À une semaine de la présentation du projet de loi séparatisme, l'opposition de droite a choisi de griller la politesse à l'exécutif et défendra aujourd'hui à l'Assemblée un changement de la Constitution pour y affermir la laïcité et la lutte contre le communautarisme. Cette proposition de loi, déjà adoptée par le Sénat en octobre dernier, n'a en revanche aucune chance a priori d'être validée par les députés. Tout juste devrait-elle permettre aux Républicains de revendiquer de jouer la carte de la responsabilité et d'instruire le procès de la majorité. Lui a déjà été voté en première lecture à l'Assemblée. Lui, c'est le sulfureux article 24 de la future loi dite de sécurité globale, sauf qu'il sera totalement réécrit, ainsi en a décidé l'exécutif, lequel entend éviter que ne se répètent les manifestations du type de celle de samedi dernier. Sans compter qu'un autre dispositif législatif pourrait déjà répondre à ce même objectif de protéger policiers et gendarmes, en l'occurrence un article de la future loi sur les séparatismes et qui sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Reste toutefois à ne pas laisser s'installer de malaise ou pire, de divorce entre la police et les citoyens. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron accordera demain une interview aux médias en ligne brute sous la houlette notamment du journaliste Rémi Buisine, récemment mis à terre par des policiers lors de l'évacuation brutale d'un camp de migrants à Paris. Cet entretien était prévu cet après-midi mais a été reporté de 24 heures suite au décès de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis j'en profite pour vous rappeler que la grande table des idées, Olivia, sera elle aussi consacrée au destin de VGE.
Valéry Giscard d'Estaing, une idée de la modernité, on en parlera effectivement avec nos invités, le grand historien Jean-François Sirinelli avec nous en studio et Marc Lambron, académicien, écrivain, ainsi que le romancier Éric Reinhardt qui nous rejoindra au fil de cette discussion.
À Hong Kong, les sanctions continuent de pleuvoir sur le camp pro-démocratie au lendemain de la condamnation à la prison ferme de 3 jeunes militants. Le magnat de la presse d'opposition, Jimmy Lai, a été, lui, placé ce matin en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour fraude. Les précisions de notre correspondante Florence de Changy.
C'est en se présentant pour sa visite hebdomadaire au commissariat de police de son quartier hier que Jimmy Lai, qui était en liberté sous caution depuis son interpellation du mois d'août, a été placé en garde à vue. Il n'a pas eu le droit de rentrer chez lui et a dû comparaître aujourd'hui. Avec deux de ses adjoints, les trois hommes sont accusés de fraude. L'affaire porte sur un problème de non-conformité dans le bail des locaux du siège du groupe de presse. Ces deux directeurs ont été remis en liberté sous caution, mais le tribunal a placé Jimmy Lai en détention provisoire jusqu'au mois d'avril, estimant qu'il passait généralement beaucoup de temps à l'étranger et qu'il y avait un risque qu'il s'enfuit. Lors de son interpellation au mois d'août, 200 policiers étaient descendus dans la rédaction de son journal, le Apple Daily, une opération qui avait choqué l'opinion publique. Jimmy Lai est également poursuivi sous la nouvelle loi de sécurité nationale, sans toutefois connaître son chef d'inculpation. Jimmy Lai n'a jamais caché sa hantise du régime chinois. Il qualifiait ouvertement le président Xi Jinping de pire dictateur de l'histoire de l'humanité. Jimmy Lai se savait en sursis. Il va avoir 72 ans dans 5 jours. Son dernier message à ses proches, avant qu'on lui supprime son téléphone pour sa première nuit en prison hier soir, a été « N'ayez pas peur ».
Chaque année, inlassablement, le réchauffement climatique se rappelle à notre mauvais souvenir. 2020 s'annonce d'ores et déjà comme l'une des trois années les plus chaudes jamais répertoriées. Même constat s'agissant de la décennie 2011-2020, dont les six années les plus chaudes auront été toutes relevées à partir de 2015. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi perturbé sur une large moitié ouest. Partout ailleurs, le temps sera généralement plus clément malgré quelques averses éparses. Quant aux températures, elles afficheront entre 5 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.